Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors vous avez décidé, vous, de changer de calendrier aujourd'hui.
Oui, si vous le permettez, je vais vous faire une revue de presse spéciale 8 mars. Vous savez, le jour des femmes, le seul jour où on en parle vraiment. Eh bien, c'est une revue de presse totalement féminine aujourd'hui, bien qu'on ne soit pas 8 mars. Parce qu'après tout, il faut bien faire un peu d'entrisme. Il n'y a, paraît-il, que ça qui marche. Alors pour commencer, voici 100 femmes. Les 100 femmes qui changent le monde en une de challenge. Elles sont aussi bien entrepreneuses, managers, politiques, intello ou mécène. Il y a bien sûr celles qui sont très connues, d'Angela Merkel à Greta Thunberg, mais vous pourrez en découvrir bien d'autres. Alors, coup de projecteur sur quelques Françaises. On sait trop peu que le prix Nobel d'économie 2019, c'est Esther Duflo, professeure au MIT. On sait peut-être encore moins qu'elle travaille à expérimenter sur le terrain des méthodes de lutte contre la pauvreté en Inde, en Chine et au Kenya. Des méthodes qui ont commencé à essaimer dans le monde entier. Il y a aussi Anne-Sophie Dandelot ou Catherine Bergel, qualifiées de trublion du milieu des fusions-acquisitions par le journal, ce qui est quand même moyennement sexy, en achetant des actions d'entreprises confrontées à des soucis de gouvernance. Eh bien, elles arrivent à faire pression. Elles ont ainsi obtenu la baisse de rémunération de Denis Kessler chez Score ou l'augmentation de la rémunération de petits porteurs chez Disneyland Paris, par exemple. Et les fonds qu'elles gèrent affichent quand même au total 650 millions d'euros. Un mot encore de la food tech à la française avec Lucie Bach, fondatrice de Too Good To Go, qui récupère les invendus pour lutter contre le gaspillage alimentaire, responsable de 8% des gaz à effet de serre. Elle a donc permis à 16 millions de consommateurs de récupérer à bon prix un panier d'invendus. Et puis bien sûr, toutes les femmes dont parle Challenge ne sont pas dédiées à des causes plus ou moins humanistes, mais selon Christine Lagarde, il se peut bien qu'il y ait une manière féminine et plus efficiente de faire les choses. La présidente de la Banque Centrale Européenne pense que la crise financière de 2008 aurait sans doute été différente si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters.
S'il y a un bastion qui reste à conquérir pour les femmes, c'est bien celui du jeu vidéo.
C'est ce que raconte le magazine Chute, spécialisé dans les femmes et le numérique. Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à jouer ou à travailler dans le secteur du jeu vidéo, le milieu reste extrêmement sexiste et la mixité est une conquête qui se paie cher. Aujourd'hui, un joueur sur deux est pourtant une femme, et pas seulement pour jouer sur Candy Crush sur un smartphone. Et la donne change complètement dès que l'on entre dans l'e-sport, où ça tombe à 10% seulement. Il n'y a qu'une seule gameuse française qui vit de l'e-sport, et elle n'a pas elle non plus la vie facile. Concrètement, dit-elle, dès qu'une femme apparaît à l'écran d'un jeu sur Twitch, les commentaires peuvent s'emballer très vite, émaillés de « retourne dans ta cuisine »,« sale féministe », voire « ça va princesse, tu me donnes ton Instagram », qui tourne facilement au harcèlement en ligne. Les sociétés de jeux proposent de signaler les mauvais comportements, mais les alertes sont si nombreuses que les comptes de joueurs concernés sont longs à bannir et que les harceleurs continuent en grande impunité. Les femmes s'organisent, créent des réseaux, mais beaucoup continuent de jouer à micro-couper, simplement pour être tranquilles.
Et il y a une femme que l'on voit beaucoup en ce moment dans les journaux.
Et le point titre sans embâche, présidentiel, et si c'était elle ? C'est un tweet de son premier adjoint qui a mis la puce à l'oreille. Je suis sûre qu'une femme réussira à rassembler, a écrit Emmanuel Grégoire, en réaction à une de Libé pour 2022 où ne figuraient que des hommes. Et on réalise donc qu'Anne Hidalgo, c'est bien elle, ne dit plus qu'elle ne briguera pas le poste comme elle le prétendait pendant la campagne municipale. Cette campagne dure lui a donné une image de combattante bardée de cicatrices, mais les conditions de sa candidature ne sont pas réunies, estiment certains de ses partisans, qui envisagent, si le moment vient, une campagne blitzkrieg d'un an. En attendant, ses compagnons de route la trouvent trop seule, ses ennemis trop fragiles ou trop autoritaires, c'est selon. Elle a en tout cas une étonnante arme secrète, en la personne de Nicolas Sarkozy. Leur sympathie s'est liée grâce à une ennemie commune, Nathalie Kosciusko-Morizet. Si un match devait opposer Emmanuel Macron à Anne Hidalgo, Sarkozy, conclut le point, serait peut-être faiseur de roi.
Toujours en politique, une femme anonyme.
Elle se nomme Marie Tanguy, mais c'est un pseudo. Elle était membre du Pôle Idée de la campagne d'Emmanuel Macron et elle a jeté l'éponge après un violent burn-out et une grosse désillusion politique. Elle raconte à Society l'uniformité du profil de ses collègues masculins, parisiens, issus des grandes écoles et qui manipulaient des sujets stratégiques sans jamais émettre le moindre doute. Elle décrit aussi l'entourage d'Emmanuel Macron comme prodigieusement intelligent, mais avec une expérience humaine extrêmement maigre. Dans un livre écrit à chaud, elle dit aussi que la plupart de ce qu'elle admirait sont partis, eux aussi, qu'ils ont peut-être perdu une partie de leurs illusions, comme elle, mais qu'en tout cas, personne ne lui a jamais rien reproché, qu'elle n'a jamais été ni harcelée ni maltraitée. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'elle se soit sentie obligée de le préciser.
Voilà, revue de presse féminine présentée par une femme à la une du Parisien dimanche matin. Un homme qui parle d'un homme, Xavier Bertrand, qui parle d'Emmanuel Macron. Et si Macron était de droite, il aurait fait de la sécurité une priorité. Propos d'homme. Merci Isabelle Souquet.
Merci.